Tout à fait. Et on va s'écouter un petit jingle de Pulsar avant de faire un rapide point sur la situation des gilets jaunes à Poitiers.
Nous représentons une goutte de paresse dans un océan de labeur.
Ah, voilà.
Pulsar, il est étoile en plus.
Alors effectivement, comme ça a été annoncé dans le corps du développement, c'est vrai que la mobilisation a un petit peu changé dans la France et à Poitiers maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a moins de manifs, moins massives. En tout cas, la mobilisation reste toujours présente et efficace, puisque à Poitiers, en tout cas, on peut noter toujours la présence de l'AG, qui maintenant se trouve le plus souvent au Tison, donc l'espace qui a été aménagé au bas de Blossac. Donc l'AG a lieu tous les vendredis à 18h. Vous pouvez vous y rendre aujourd'hui au Tison. On peut noter aussi que les Gilets jaunes ont mis en place des systèmes de discussion sur des thématiques décentralisées, dans le sens où elles n'ont pas lieu durant l'AG, mais il y a notamment eu des discussions sur le 22 mai, par exemple, sur la démocratie et les élections. Il y a aussi des discussions qui sont prévues normalement sur le service public. Donc ça continue de nourrir, sachant que sur vraiment le point de la mobilisation physique en manifestation, il y a toujours des mobilisations, puisque le 26 mai dernier, il y avait une manif place de Provence qui est allée vers la fête du Toit du Monde dans les trois quartiers, dans le quartier de au bas du plateau, du côté de la gare, notamment une manif, je crois me souvenir, sur la question des violences policières, que lors du 1er mai, il y avait beaucoup de gilets jaunes dans la manifestation, avec aussi une tentative de récupération du rond-point qui s'est malheureusement soldée par un échec. Il y a aussi eu des jonctions avec différentes luttes locales. Il y a eu notamment une manifestation en soutien à la maternité du Blanc qui est censée fermer, auquel les gilets jaunes se sont rendus. Il y a aussi une jonction avec les postiers de la Vienne, certains postiers de la Vienne qui étaient en lutte. Il y a aussi eu des jonctions avec les personnels en lutte du CHU lors d'une journée de lutte interprofessionnelle il y a quelques temps. Donc la mobilisation continue, d'autant plus que la semaine dernière, lors de l'acte 30 des Gilets jaunes, ceux-ci ont inauguré à Scorbé-Clairvaux, je crois, une caravane qui est en fait un point mobile qui, a priori, aura pour ambition de sillonner la Vienne pour informer les actions, les mobilisations, tenir les gens au courant de l'actualité des Gilets jaunes dans le coin. Et on espère avoir l'occasion d'en reparler plus longuement sur la situation à Poitiers, sur l'Assemblée Gilets jaunes à Poitiers, puisqu'on espère pouvoir inviter deux ou plusieurs gilets jaunes de la Vienne pour l'émission du 12 juillet, pour pouvoir, nous à la fois, clôturer la saison, mais aussi eux un petit peu présenter la suite, comment ça va se passer, et revenir sur le mouvement. Donc voilà ce qu'il est possible de dire rapidement sur Poitiers. Et on va passer assez rapidement, puisqu'il nous reste 8 minutes pour finir, sur la rubrique livre, qu'on va essayer un petit peu de rendre plus fréquente. Et là, en fait, on va parler d'un livre qui est un petit peu... Donc c'est aussi un livre en quelque sorte d'actualité, puisque c'est le livre qui a été rédigé par Pierre Audin, qui est sociologue à Poitiers. Et ce livre s'intitule « Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique », où cet ouvrage, en fait, qui est paru en mai 2009 à La Découverte, s'intéresse à la lutte et la grande grève qu'il y a eu en 2009 dans les Antilles françaises contre donc la profitation, qui est le phénomène d'accaparement des richesses par une minorité blanche, principalement là-bas, et en plus lutte contre la vie chère et pour avoir des conditions de vie meilleures. Donc il faut savoir que cet ouvrage est le résultat de la thèse de ce chercheur qu'il a mené. Enquête notamment qu'il a menée sur le terrain durant cette année 2009. Et le livre s'intéresse autant à la genèse du mouvement syndical antillais qui émerge dans les années 60 et qui a une approche assez particulière, puisque c'est à la fois un mouvement ouvrier donc qui défend les droits des travailleurs, mais qui est aussi un mouvement nationaliste anticolonialiste qui notamment tente de lutter pour l'émancipation et l'indépendance des Antilles, puisque dans son ouvrage, il ne s'intéresse pas que à la Guadeloupe, mais aussi à la Martinique et aussi à la Guyane. Puisque dans son ouvrage, il commence donc par, dans une première partie, par remonter aux racines politiques du mouvement d'émancipation antillais dans les années 60. Il s'intéresse notamment au mouvement, au mai 68 antillais, aux années 70. Dans une deuxième partie, il s'intéresse vraiment à deux organisations qui sont l'UGTG, donc l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, et la CGT locale, en expliquant à la fois leur positionnement politique et syndicaux, qui sont très originaux et qui sont des marqueurs importants de la politique locale des luttes d'émancipation. Et dans une troisième partie, il s'intéresse vraiment à décrire le mouvement politique qu'il y a eu, le mouvement de lutte qu'il y a eu en 2009, qui avait commencé en novembre 2008, en expliquant à la fois les origines et le contexte de la mobilisation. Et c'est un ouvrage en fait qui ne manquera pas de faire écho à l'actualité métropolitaine, si je puis dire, puisque une partie des mobilisations sont les mêmes, bien que les situations, à savoir la lutte contre la vie chère, la lutte contre le prix de l'essence, bien que la situation, bien sûr, dans ces territoires qui sont censés être des territoires égaux aux territoires métropolitains, mais qui sont toujours maintenus dans une situation postcoloniale inadmissible, les luttes sont beaucoup plus âpres et la vie est beaucoup plus difficile. Mais il y a certains passages qui, notamment un petit passage sur les ronds-points que j'aurais aimé vous lire mais qu'on n'aura pas le temps de lire, mais où il raconte comment la centralité du rond-point dans cette lutte d'émancipation et cette lutte contre la vie chère, la figure du rond-point a eu une place importante dans la lutte, de la même manière que le rond-point chez les Gilets jaunes a eu une place importante. Mais on aura très certainement l'occasion d'en reparler plus avant, puisqu'on invitera très certainement à la rentrée cet auteur pour parler de cet ouvrage, puisqu'il est chercheur, enseignant-chercheur à Poitiers. Pour rappeler, cet ouvrage, c'est « Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique ». Ça a été écrit par Père Audin et c'est édité chez La Découverte. Et avant de passer à une petite présentation du G7, si je puis dire, on va s'écouter un petit jingle de Pulsar.
Nous représentons une goutte de paresse dans un océan de labeur.
Ah, voilà.
Pulsar.
Bien, ça fait des perspectives, mais on va vous proposer une autre perspective pour les vacances, puisqu'il faut bien, on ne va pas forcer tous de rester à Poitiers dans les manifestations des Gilets jaunes. Et on vous appelle donc à vous rendre à Biarritz, fin août. Hein. On sait que du 25 au 26 août, et je vous lis un appel à ces rassemblements, contre le G7, du 24 au 26 août, 7 chefs d'État les plus riches de la planète, États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada, se retrouvent à Biarritz sous la présidence de la France. Ces 7 puissances sont les plus autoritaires et belliqueuses de la planète. Elles se retrouvent pour perpétuer un système au service des plus riches et des multinationales. Ces États mettent le feu à la planète, augmentent les inégalités et la pauvreté qu'ils ont générées, qu'ils entretiennent, détruisent le vivant et le climat au mépris des droits fondamentaux. Avec un cynisme à toute épreuve, ils déclarent se donner comme objectif la lutte contre les inégalités. Face à l'écran de fumée de leurs beaux discours, nous leur opposerons l'urgence sociale et écologique. Et donc, du 19 au 26 août, donc sur une période un peu plus longue que le sommet lui-même, sommet auquel nous ne sommes pas invités, mais nous allons quand même essayer de nous y inviter, ce contre-sommet va se dérouler sur la côte basque. Il y aura normalement un grand rassemblement avec un camp qui devrait se passer à Irun, côté Pays Basque espagnol, et Hendaye, côté Pays Basque nord, français. Il y aura aussi un contre-sommet. Il y aura des gens qui vont prendre des paroles. Il y a différentes tendances qui se sont organisées. Bref, c'est le moment d'aller voir un peu ce qui se passe en cette fin août, et de illustrer un petit peu la fin de ce qui a été dit sur les Gilets jaunes, à savoir qu'il faut se construire des perspectives pour en finir avec le vieux monde. Donc, du 7, du 26, je dis des bêtises, du 19 au 28, 6 août à Hendaye-Irun.
Le rendez-vous est pris.
Le rendez-vous est pris.
Pour le contre-sommet du G7.
Alors, on donnera des nouvelles parce que tout est en train de se préparer, parce que bien évidemment, les autorités ne voient pas d'un bon œil les camps tout autour. Il y a eu des négociations pour pouvoir se réunir autour de Biarritz. Il y en a une qui semble pouvoir être acceptée maintenant, mais on donnera un petit peu des nouvelles sur toutes les initiatives qui ont été prises.
Oui.
Parce qu'en même temps aussi, il y aura le camp antigalactique qui avait lieu chaque année depuis 2 ans à la ZAD et qui se déplacera cette année de la ZAD au
Pays Basque. Et puis on aura certainement l'occasion d'en parler à la rentrée, puisque nous arrêterons notre émission le 12 juillet. Puis on aura l'occasion d'en parler à la rentrée. Mais normalement, là, dans 15 jours, on se retrouve pour une émission sur la question des luttes écologistes et de la non-violence. Voilà, merci pour votre attention. C'était Fracture et à une prochaine. Salut.